EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Bonjour, je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et des agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société, on s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées, et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Et dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes sur Radio BLV pour vous partager notre passion pour l'éducation populaire. Du coup, on vous propose un tour d'horizon des sujets qui nous intéressent et qui constituent selon nous de l'éducation populaire sur le territoire, et on vous fait rencontrer des acteurs et actrices super inspirants. Voilà, bienvenue avec nous au fil des émissions. Dans l'éducation populaire, va-t-elle changer le monde ?
Et aujourd'hui, on va parler de santé. Alors, a priori, on peut se demander c'est quoi le rapport entre la santé et l'éducation populaire ? Eh bien, moi, il me semble que la santé, c'est un secteur de notre société, et comme notre société est discriminante globalement, et bah, fatalement, la santé, ça l'est aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai, que la santé, c'est un secteur discriminant ? Ça veut dire que les institutions médicales, elles reproduisent les oppressions systémiques qui existent dans notre société. Donc, tous les ismes qu'on connaît bien maintenant, le capitalisme, le racisme, le sexisme, le validisme, j'en passe et des meilleurs. Et donc, que les soignants sont discriminants, même involontairement ou inconsciemment, que les structures de soins ne sont pas aussi accessibles pour tout le monde, comme par exemple les actes de dépistage ou de prévention, ou les démarches administratives pour une prise en charge ou un remboursement. Ça veut dire qu'il y a de l'ignorance quant aux réalités et aux besoins spécifiques de certaines populations. Ça veut dire que les soignants ont encore un statut d'autorité par rapport aux soignés, qui fausse la relation. Ça veut dire que les professionnels de santé sont organisés de manière hiérarchique, que les hôpitaux sont détruits à cause de la libéralisation et de la privatisation du soin, etc., etc. Sauf qu'en santé, il est question de la vie des gens, de leur corps, de leur esprit, et du coup les conséquences de ces discriminations, elles sont particulièrement importantes et particulièrement graves. Quelques exemples. Ça peut entraîner, les discriminations en santé, ça peut entraîner la discontinuité dans les soins. C'est par exemple les gens du voyage, étant donné qu'ils bougent beaucoup et qu'il n'y a pas une personne qui est référente de leur parcours de soins, et ben, il y a des grosses interruptions dans les soins dont ils peuvent avoir besoin. Ça peut entraîner une absence de prise en charge ou une prise en charge moins bonne. Par exemple, les personnes racisées, on leur donne moins d'antidouleurs qu'aux autres. Ça peut entraîner des retards de diagnostic et de l'errance médicale. Il suffit de voir les délais énormes qu'il faut pour avoir un diagnostic psychiatrique, par exemple. Il peut y avoir une altération de la santé mentale, parce que c'est hyper angoissant et ça met en colère quand on a mal ou on a des souffrances et qu'on n'est pas pris au sérieux. Ça peut entraîner un risque de renoncement aux soins, parce qu'une fois qu'on s'est pris plusieurs claques dans la tronche, bah, en fait, on n'a juste plus envie d'aller voir le médecin. Ça entraîne une moins bonne santé en général, c'est des gens, des populations qui vivent en étant malades, en ayant des difficultés diverses et variées. Ça entraîne davantage de maladies chroniques, globalement les personnes en situation de précarité, elles développent des maladies chroniques davantage que les autres populations. Ça entraîne des violences et des maltraitances médicales. Ça diminue l'espérance de vie, les cancers sont diagnostiqués plus tard, par exemple, quand la douleur du patient n'est pas prise au sérieux, ou les gens qui cumulent cancer et maladie psy, ils ont 5 à 8 ans d'espérance de vie en moins. Une espérance de vie en moins bonne santé, c'est-à-dire que les gens sont plus malades, plus gravement, plus vite et pendant plus longtemps. Et au final, ça entraîne des décès. Et on a en tête l'histoire, enfin l'événement de Naomi Musenga en décembre 2017, qui est morte à Strasbourg parce que des agentes du SAMU ne l'ont pas prise au sérieux. Donc, pardon pour cette introduction un peu déprimante, mais les discriminations en santé, ça a des impacts graves qui, du coup, entraînent une dégradation de la vie des gens, leur vie sociale, leurs loisirs, leur travail, leurs engagements. Et à son tour, ces discriminations en santé, ça aggrave les inégalités elles-mêmes, parce qu'aller travailler quand on a une maladie chronique ou des problèmes de santé mentale, eh ben, c'est la galère. Donc, tout ça pour dire que la santé, c'est politique. c'est la conséquence d'un fonctionnement systémique et sociétal, et la santé, elle, influe à son tour le fonctionnement de cette société. Et c'est pour ça qu'il faut politiser la santé. Mais politiser la santé, ça veut dire quoi ? Concrètement, et comment on fait ? Et bien dans cette émission, on va essayer de répondre à ces questions, ce sera évidemment une tentative et ce sera pas exhaustif. Et pour ça, on a une invitée qui s'appelle Maria. Bonjour Maria.
Salut.
Et on s'en parle, on se parle toutes les deux juste après une pause musicale et on va écouter une chanson de K-pop Demon Hunters qui s'appelle Golden, je crois. I was a ghost, I was alone. Huh, 두어진 huh, 길 속에. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage.
Finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden.
Et on est de retour dans EducPop. L'éducation populaire peut-elle changer le monde ? Aujourd'hui, on s'intéresse à l'éducation populaire et la santé. Et donc, j'ai fait un constat vraiment hyper déprimant de en quoi la santé c'est politique et quels impacts ça peut avoir qu'il y ait des discriminations en santé. Mais ici, on est là pour politiser la question et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux que ça. Et pour en parler, j'ai avec moi Maria. Rebonjour Maria.
Rebonjour.
Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, alors moi je suis une amoureuse de la radio, je viens du monde des radios associatives et dans ce cadre-là, j'ai animé plein d'émissions et fait des ateliers radio avec toutes sortes de publics, des enfants, des personnes âgées, mais aussi des gens dans des établissements médico-sociaux et des EHPAD.
Ok, trop cool. Bah, merci d'être avec nous. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, j'ai eu envie de t'inviter notamment parce que il y a deux semaines, t'es allée à une rencontre qui s'appelle Les Dingueries, dans le Royan, juste à côté. qui parle un peu de, qui parle complètement de, du sujet qui nous intéresse. Mais avant ça, moi, j'ai fait mon petit état des lieux. Toi, qu'est-ce que t'en penses du fait de politiser la santé? Est-ce que c'est un truc qui te paraît important? Est-ce que pourquoi? Comment tu t'y intéresses?
J'ai l'impression que les questions de santé, ça peut être vu de manière hyper individuelle et un peu comme une catastrophe naturelle. Ben mince, j'ai telle maladie, j'ai tel problème de santé. Et souvent, les choses, elles peuvent être vécues de manière un peu individuelle ou dans la sphère familiale ou amicale. Et vraiment, ce que je retiens de ce week-end en particulier, mais enfin, c'était des réflexions que j'avais avant, c'est que je crois qu'on gagne à être ensemble et à se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut créer du soutien collectivement et aussi comment on peut peut-être en apprendre plus sur, sur les questions de santé et pas laisser juste ces questions-là ben, aux professionnels de santé. Et voilà qu'on a tout à gagner à s'en saisir collectivement. Mmh. Ça m'évoque ça, là.
Du coup, la politisation, ça passerait par de l'organisation collective et puis par se réapproprier un peu le savoir qui, pour l'instant, est un peu cantonné à une partie des professionnels, quoi.
Ouais, c'est les premières pistes qui me viennent là comme ça, mais il y aurait plein d'autres aspects à développer, c'est sûr.
Ok, trop bien. Et ben, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement? C'était quoi?
Alors, les Dingueries, donc, c'est un événement qui a été organisé par un collectif qui est composé de plein de personnes différentes. Donc, c'est autant des personnes qui viennent du milieu du soin que d'autres qui ne viennent pas du milieu du soin, mais qui travaillent fort ces questions-là, bah, peut-être pour des raisons personnelles ou bien parce que c'est des personnes qui sont touchées par leur entourage. Je ne sais pas exactement ce qui a motivé chacun, chacune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un groupe très hétéroclite qui a créé cet événement. Du coup, c'était 2 jours à Pont-en-Royan dans la salle des fêtes. Il faisait 5 degrés dehors, mais il y avait plein de chaleur humaine à l'intérieur.
Il y avait du monde?
Et oui, et en tout cas, le premier jour, j'ai compté, il y avait plus d'une soixantaine de personnes. Okay. Qui venaient donc de Drôme, d'Isère et d'Ardèche. Voilà.
Ouais, ok. Et du coup, le collectif Psy-Psy, c'est un collectif qui vient d'où? Il n'est pas du coin, non?
Non, en fait, l'idée de ce week-end, c'était d'organiser un moment d'échange et de réflexion sur la création d'un réseau d'entraide autour des souffrances psychiques. Et du coup, pour ça, le collectif qui organisait Dinguerie a fait venir un autre collectif, donc un collectif qui s'appelle Psy-Psy et qui vient du Limousin, donc sur le plateau des Mille Vaches. Donc, c'est un endroit qui est aux confins de la Creuse, de la Haute... je vais pas dire le bon.
Ah, c'est paumé, quoi.
Bah, en tout cas, c'est entre 3 départements, mince. La Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, ouais, voilà. Et du coup, c'est un collectif qui existe depuis 15 ans et qui organise du soutien collectif sur le plateau autour de ces questions-là, qui vient raconter leur expérience, en fait.
Ouais, ok. Parce que j'imagine, pour replacer un peu de contexte, que donc là, c'est... On s'intéresse à la branche un peu santé mentale de la santé en général. Et c'est un secteur où il y a des besoins grandissants, puisque la santé mentale globale de la population, elle se dégrade notamment depuis le Covid, avec un taux de dépression qui est assez dingo. Le nombre de professionnels, lui, croit pas beaucoup. Et du coup, l'accessibilité à de l'accompagnement ou à du soin psy est hyper galère. C'est très privatisé, puisque les psychologues conventionnés avec la Sécu remboursés et les psychiatres sont peu nombreux. Et c'est les psychologues privés qui sont les plus nombreux et les plus faciles à trouver, mais du coup, ça coûte hyper cher. Et encore plus dans des zones hyper rurales et un peu enclavées, je crois que c'est ça le terme, où ça devient super difficile d'accéder à ça. Et du coup, ce collectif a créé une alternative communautaire, du coup, s'organiser entre eux pour s'apporter du soin, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et c'est vraiment parti d'une situation hyper concrète au début que je pense qu'on a toutes et tous connues, enfin vous, c'est enfin autour du micro, mais aussi vous qui nous écoutez, c'est sûr, c'est d'avoir des proches, des personnes qui vont moins bien dans notre entourage. Et en fait, on se commence à se dire, ben en fait, comment on fait, enfin concrètement. Et donc voilà, c'est vraiment parti d'une situation identifiée au début. Et puis 15 ans plus tard, voilà, c'est une grande organisation collective.
Ah ouais, ça fait 15 ans qu'ils font ça.
Voilà.
Ok. Mmh. Et du coup, là, l'idée de les faire venir dans le coin, c'était parce qu'il y a une volonté de créer quelque chose de similaire sur le territoire?
Et ben, l'idée, c'était de nourrir les réflexions ici avec ces 15 ans d'expérience, parce que finalement, c'est pas si commun des structures, des collectifs qui réfléchissent aux questions de santé, mais qui ne soient pas des professionnels de santé. Et c'est vraiment ce positionnement-là qui était intéressant, j'ai trouvé. C'était vraiment de sortir les questions de santé de la sphère médicale et des professionnels de santé, en disant que chacun, chacune, les citoyens, les citoyennes, on peut aussi s'occuper de ces questions-là. Et ça, j'ai l'impression que c'est déjà politisé la santé, en fait, déjà.
Mmh. Ouais, de ouf. Du coup, il n'y avait pas du tout de professionnels de santé Si, il y en avait.
Si, il y en avait, évidemment, parce que que ce soit dans le collectif Psy-Psy, donc dans le plateau des Mille Vaches, et aussi dans le collectif Dinguerie, il y avait des professionnels de santé, et aussi dans les participants-participantes. Mais l'idée, c'était de dire que tout le monde était au même niveau, qu'il n'y avait pas les sachants et les profanes. En fait, même quand on est professionnel de santé, on peut être malade un jour ou aller moins bien. Et donc, finalement, personne n'est au-dessus. Et voilà, donc c'est vraiment l'idée de se mettre tous au même niveau et de réfléchir collectivement à ça.
Ouais, ok. Et ça me fait penser, pour faire le lien, enfin comment dire, pour renommer notre sujet, je trouve que c'est un moyen de reconnecter l'éducation populaire et la santé, c'est que les patients, les gens qui vivent des maladies, du coup ils deviennent vraiment experts, ils deviennent vraiment hyper sachants sur leur propre maladie, sur les symptômes, sur les causes. Souvent c'est des gens, enfin ça dépend qui évidemment, mais souvent ils font beaucoup de recherches, ils ont une grande expérience, et du coup là, ce dont tu parles, j'ai l'impression que c'est ça quoi, c'est redonner la place au savoir, à l'expérience des patients, hein, des gens qui vivent la maladie. Et ça, c'est profondément de l'éduc-pop.
D'ailleurs, dans les participantes, il y avait aussi des personnes qui étaient pères aidants. Donc, c'est des personnes qui ont suivi tout un parcours de soins et qui ont ensuite pris du temps pour se former et essayer de trouver une autre... Enfin, c'est devenu un travail pour eux. Enfin, j'arrive pas trop à expliquer, mais si tu veux peut-être compléter.
Moi, ce que j'ai compris que pères aidants, c'était des gens qui ont traverser une maladie ou un état de santé et qui du coup ont développé cette expertise et ont fait une formation complémentaire pour pouvoir accompagner d'autres personnes qui vivent la même maladie, qu'on est aidé par des pairs, c'est vraiment ça que ça veut dire quoi.
Donc en gros, je parlais de ça pour dire qu'il y avait vraiment toute une myriade de personnes qui pouvaient avoir plein de raisons de s'intéresser à ces questions-là et qui étaient regroupées pendant 2 jours.
Ouais, ok, cool. Comment ils s'organisent du coup concrètement le soin communautaire sur le plateau des Mille Vaches? Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez parlé un peu de ça?
Oui, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup, elles étaient 3 personnes à venir raconter les 15 ans de ce réseau. Et du coup, elles ont fait toute une partie historique sur d'où c'est venu, comment en fait les choix organisationnels d'aujourd'hui, ils sont le produit d'une histoire, enfin l'histoire de leur collectif. Et du coup, il y a eu tout un moment d'explication sur... Voilà, sur leurs principes de fonctionnement. Et en fait, il y en a plein. Elles les ont formalisés il n'y a pas longtemps dans une charte de fonctionnement. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, je pense, c'est que ce n'est pas des personnes qui se prétendent professionnelles de santé. Enfin, vraiment, elles travaillent en lien avec les professionnels de santé. Mais l'idée, c'est plutôt de se positionner comme un réseau de voisins-voisines. Okay. De se dire qu'en tant que proche, habitant une même communauté, un même espace finalement, on peut s'apporter du soutien. Parce qu'en fait, le soutien, quand on est en moment de fragilité, ben, il peut être de toute forme, il peut être matériel, il peut être emmener quelqu'un faire un tour de voiture parce qu'en fait, on n'a pas de voiture pour aller chez le médecin. Ben, là, sur le plateau des Mille Vaches, c'est important. Donc, c'est vraiment essayer d'organiser... de lever un petit peu les freins qui peuvent y avoir sur comment on peut se soigner, en fait.
Mmh. Et est-ce que tu sais comment ça se formalise concrètement? Ça veut dire quoi? C'est un annuaire de personnes qui sont dans le réseau et où elles sont sur le territoire? Et du coup, si tu as besoin d'un lift, il y a quelqu'un qui te...
Non, en fait, c'est tout un processus qu'elles ont documenté dans une brochure qui s'appelle Psy-Psy, que vous pouvez trouver sur Internet. Et j'ai très peur de mal rendre hommage à tout ce qu'elles nous ont transmis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est... en gros, l'idée, c'est... aujourd'hui, leur fonctionnement, c'est on les contacte, le collectif. Et après, elles vont décider... Enfin, je dis elles, mais en fait, c'est y'elles. vont décider si c'est possible d'accompagner ces personnes. Parce qu'en fait, elles ne pourront pas accompagner toutes les problématiques. Elles sont elles ont vraiment décidé de ne pas s'embarquer sur des choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Donc, c'est vraiment délimité. Et du coup... elles décident ensemble si elles peuvent l'accompagner, et si elles décident d'accompagner les personnes, et ben c'est vraiment elles vont vraiment le faire quoi. Et après au cours c'est des binômes qui vont accompagner une personne, et après elles vont décider ensemble ce dont a besoin la personne quoi, avec elle.
Ok, waouh, ah ouais, c'est vraiment c'est hyper pro en fait, j'ai envie de dire. C'est pas des professionnels de santé, mais ça ressemble vraiment à un accompagnement que tu peux avoir au CMP, au centre médico-psychologique.
Oui, avec la différence que là c'est plutôt de s'appuyer sur les ressources de la personne. Enfin, après, je veux pas. Enfin, et puis c'est aussi que c'est sur un territoire où il y a peu d'équipements tout court en fait. Donc ouais. C'était aussi qu'il y avait pas tout ça.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, mais enfin vraiment c'est pas, je sais pas comment dire, c'est plus de l'ordre des voisins, des copains copines, de ben attends moi je peux, enfin je peux t'aider sur par exemple si c'est difficile pour toi de faire tes courses en ce moment, bah moi je peux te proposer de les faire tous les lundis par exemple.
Ouais, okay.
Ou si t'as besoin d'être un petit peu soutenu et d'avoir juste un moment d'avoir du monde avec toi, ben tu peux venir manger chez moi tous les mardis si tu veux. Et je te poserai pas plus de questions sur comment tu vas, juste t'auras ce moment-là. Et en fait le binôme organise des petits moments de vie qui peuvent soutenir la personne en s'appuyant sur son réseau à elle, quoi.
Trop bien.
Donc, ouais. Peut-être que je me trompe, mais parce que je suis pas une professionnelle de ce champ-là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus sur le quotidien proche, quoi.
Ouais, effectivement, c'est pas de l'accompagnement psychologique ou sophrologique.
Non, et elles vont pas du tout là-dessus.
C'est des petits des moments de vie quotidienne, comme tu as dit, quoi.
Oui, et puis ça peut être aussi des fois on peut avoir un peu du mal à aller se faire soigner pour tous les freins que tu as expliqué tout à l'heure. Et du coup, ça peut être de poser quelques questions sur est-ce que tu es suivi? Est-ce que tu voudrais que je t'accompagne chez le médecin? Ah, bah oui, en fait, parce que je crois que j'ai peur d'aller chez le médecin. En fait, c'est juste des micros. Levier en fait, pour oser aller se faire soigner si on en a besoin et si on en a envie.
Ouais, ok. Trop cool, trop inspirant. Et trop bien, ça me fait penser. Moi, j'ai donné une formation il y a 2 semaines, le 28 novembre dernier, à une association de kiné qui s'appelle Eco-Kiné, qui réfléchit justement aux questions d'inégalité et de discrimination. Cette formation, ça s'appelait « Politiser le secteur de la santé », donc c'est tout à fait notre sujet. Et dans les choses sur lesquelles je les ai fait travailler, il y avait la constitution d'annuaires de professionnels safe. Et je trouve que c'est une autre initiative qui existe pour essayer de s'organiser ensemble, en parallèle, en complémentarité des professionnels de santé, de répertorier, les professionnels, les médecins qui sont pas blancs, il y a tous ces gens-là parce que ils vont probablement mieux comprendre qu'est-ce que ça fait de vivre avec le racisme, ou ceux qui sont LGBT friendly, ou ceux qui sont au taquet sur les questions de neuroatypie, etc. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Il y en a une qui circule dans la Drôme Ardèche et qui est bien utile. Et pour autant, elle avait été hyper retoquée par le Conseil de l'Ordre des médecins. Ils avaient été pas contents du tout qu'on fasse des annuaires communautaires qui hiérarchisent, ou en tout cas qui trient, on va dire, les professionnels en fonction de différents critères. Et je me disais, c'est une autre initiative collective qui existe pour tenter d'être complémentaire, parce qu'on ne remplace pas les professionnels. Mais l'idée, c'est de faire avec, y compris là où des fois ils font défaut, quoi.
Et on a pas mal parlé de ces questions-là, justement, de vers qui orienter les personnes et tout ça. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le retour d'expérience du collectif PsyPsy, il y avait aussi cette idée qu'on peut faire des annuaires et c'est une trop chouette initiative. Et en même temps, des fois, si moi j'y vais, ça se passera bien, et peut-être si toi t'y vas, ça se passera pas super. Et du coup, il y avait aussi l'idée d'essayer de réfléchir collectivement sur une situation en fonction de la personne. Si elle est d'accord, hein, bien sûr, mais du coup, c'est de réfléchir ensemble, qu'est-ce qui serait le mieux pour toi? Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant on a fait l'exercice à un moment donné de juste réfléchir avec 10 personnes à toutes les ressources que nous, on pourrait mobiliser. Et en fait, c'était impressionnant. Enfin, il y avait vraiment plein d'idées, mais pas que de soins, en fait. Juste de « Ah, mais moi, j'ai ma grand-mère qui a un appart qui n'est pas occupé en ce moment. Ah, mais moi, j'ai ce truc-là. Enfin, » en fait, c'était fou à 10 personnes,
trop bien,
le nombre de ressources qu'on aurait pu mobiliser si on en avait eu besoin. Du coup, c'est vrai que ça donne de la force de se dire « En fait, des fois, on gère des situations tout seul dans notre coin. » En fait, on pourrait aussi se dire, venez, on se met à 10 et les freins, il n'y en a plus, quoi.
Trop bien, ouais, de mutualiser ce dont on est capable et ce à quoi on a accès.
Voilà, après, tout ça est très bien organisé dans un système, dans leur collectif qui est hyper chouette et qui, je pense, évite pas mal d'écueils, par exemple, de donner peut-être trop de soi dans ce collectif. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'outils qui sont pensés pour essayer d'organiser ça et que ce soit pas maltraitant non plus pour les gens qui le font, quoi.
Ouais, ok. Effectivement, une grosse question. Parce que du coup, c'est que bénévole, les gens qui sont dans ce collectif. Ouais. Donc c'est en plus d'un travail ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça. Mais en fait, des fois, ça peut être juste... moi, une fois par mois, j'appelle un tel et je lui demande comment ça va, quoi.
Ouais.
Donc ça peut être vraiment plus ou moins important en termes de soutien, okay. quoi.
Et je pensais aux gens qui organisent ce réseau. Eux aussi, c'est bénévole ?
Oui, oui.
Oh, waouh. Mm. Impressionnant.
Oui, mais en fait, le retour qui était fait, c'est que souvent, les personnes sont hyper contentes d'aider, en fait. Mm. Que ce soit les proches des personnes ou les personnes qui font ces soutiens-là. Enfin, dans le collectif, je veux dire. En fait, quand on a des gens qui vont pas bien dans notre entourage, souvent, on a envie d'aider, mais c'est juste qu'on sait pas trop comment faire. Mm. Et donc, moi, par exemple, si on me dit, tous les mardis, tu dois faire emmener quelqu'un chez le médecin, en fait, je crois que si c'est pour quelqu'un que j'aime bien, je serais prête à le faire, quoi.
Mm. Oui, puis ça coûte pas tant. Mm. Trop bien. Et du coup, vous avez réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le coin ?
Oui, du coup, c'était... Donc en fait, le premier jour, c'était un peu le retour d'expérience. Et le deuxième jour, c'était sur... Et maintenant ? Du coup, il y avait des personnes de différentes zones géographiques, donc d'Ardèche, d'Isère et de Drôme. Et donc, du coup, il y avait un peu cette idée, et du coup, ça nous donne trop envie, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Donc, il y aura sûrement des suites qui vont émerger de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plein de belles rencontres et plein d'envie d'auto-formation, de soutien collectif et donc à voir quelle forme ça prendra par la suite.
Trop bien, ça fait trop envie. Et est-ce qu'il y a... Comment on peut suivre ? Est-ce qu'il y a une liste de mails, un site internet ?
Oui, vous pouvez écrire à dinguerie@protonmail.com.
Ok, trop cool, trop intéressant. Merci Maria. Moi, un autre aspect que j'ai envie d'adresser, en tout cas qui me paraît être une piste pour politiser la question de la santé, c'est s'attaquer à la neutralité. C'est un truc que j'ai proposé aussi dans la formation que j'ai fait. La neutralité, l'objectivité, c'est des concepts qui sont très présents, je trouve, dans notre société et contre lequel, à gauche et notamment en éduc-pop, on se bat parce que ça n'existe pas. On parle tous d'un point de vue particulier. On a été élevés dans un monde particulier, on a un corps particulier, on a une éducation particulière. Bref, ça influe la façon dont on voit et on agit sur le monde. Et en médecine, la neutralité, je trouve, a une place particulièrement importante, que ce serait qu'en étant neutre, qu'on peut bien soigner. Et en fait, on pourrait se dire, c'est très noble de pas vouloir, de vouloir être le plus objectif possible pour prendre la personne telle qu'elle est. Mais souvent, en fait, ça veut dire refuser de voir les inégalités. Refuser de voir les discriminations qui sont en jeu et notamment celles dont nous on bénéficie, que par exemple refuser de voir les privilèges dans lesquels on est, que quand on soigne et qu'on est un homme blanc cis hétéro et qu'on a des patients qui partagent pas ces privilèges là, en fait ça a un impact sur la relation, surtout une relation de soins qui est particulièrement inégale et que finalement donc la neutralité ça veut dire reproduire les oppressions. Ça veut dire refuser de prendre position et ne pas prendre en compte la position que nous on a déjà. Du coup, ce que je propose dans ces cas-là, c'est de commencer par se situer. Voir moi, je me situe où, en fait, dans les différentes oppressions qui existent. Et en avoir conscience, ça permet déjà un chouïa d'humilité. Et faire attention comment on parle, d'où on parle, se dire que peut-être on ne sait pas tout. Et je préconise la responsabilité plutôt que la honte et la culpabilité, parce que des fois ça peut faire hyper flipper de réaliser « Oh mon Dieu, je suis hyper privilégiée et je reproduis les oppressions ». Ouais, mais ça c'est tout le monde, c'est juste le fait qu'on est en société, donc on passe à la responsabilité, on se dit qu'on peut y faire quelque chose. Et notamment en faisant ces formations, notamment en participant à des événements comme Maria, tu nous as raconté. Et il y a d'autres initiatives qui existent, dont on n'a pas le temps de parler cette fois-ci, mais on refera sûrement une émission sur le sujet. Par exemple, il y a les centres de santé communautaire qui commencent à se développer un peu partout en France, et c'est vraiment hyper enthousiasmant, notamment Village de Santé à Grenoble, qui inclut une association d'éducation populaire dans son fonctionnement, c'est incroyable, ça fait trop envie. Et on n'a aussi pas parlé d'autres façons de mélanger éduc-pop et santé qui existent depuis hyper longtemps, comme les plannings familiaux par exemple, qui ont une histoire hyper riche et qui se battent vraiment très fort pour démocratiser la santé. Et il y avait aussi les formations EVARS qui existent, qui sont hyper menacées. Et ce serait trop cool de parler avec quelqu'un qui en fait.
Et je voulais aussi rajouter, il y a les formations PSSM, donc Premier Secours en Santé Mentale. Je ne sais pas si tu voulais en parler ou pas, mais...
Mais tu peux dire ce que c'est,
je pense à ça parce que c'est des formations de deux jours où on peut apprendre un petit peu... vraiment le béaba de la santé mentale, on va dire. Et j'ai trouvé que, enfin, moi, je l'ai faite et j'ai trouvé que c'était quand même hyper utile et je pense que c'est d'intérêt général.
Ouais, grave, moi aussi, je l'ai fait, je trouve que c'est une super base.
Oui, voilà.
Trop bien, merci Maria d'avoir été avec nous. Les prochaines dates de CEP. Donc, on se retrouve à la rentrée en 2026 et tous les premiers mardis du mois, à l'Art des Choix de Chauny, il y aura des apéros engagement. L'idée, c'est de venir découvrir comment soutenir une asso du coin, sans pression, un verre à la main. Et si vous avez envie d'agir, de contribuer, mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peu de temps ou d'énergie à donner, eh ben, c'est vraiment fait pour nous, parce qu'on a toutes et tous quelque chose à apporter. Donc pour être tenu au courant, suivez-nous sur les réseaux, Instagram, notre site internet, cep, je sais jamais, cep.asso.
cep-asso.fr.
Quel enfer. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Et en 2026, ce sera aussi le grand retour des stages Même pas peur et Même pas mal. Donc vraiment, suivez-nous pour avoir les dates quand elles sortiront.
À l'année prochaine!
Éduc-pop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.